Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM avec une nouvelle fois Claire et Lara qui sont avec moi. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors après les chansons, le mois dernier, nous retrouvons bien les séries de télé. Alors s'il y en a encore, parce qu'on sait qu'il y a la grève des scénaristes à Hollywood pour avoir davantage de rémunération, et on est bien sûr avec eux.
On les soutient.
On les soutient. Mais ce n'est pas l'objet de notre chronique aujourd'hui, j'imagine.
Non, aujourd'hui, c'est les femmes dans les séries. On va commencer par notre petite question. Ludo, une héroïne dans une série ?
Facile. Xara.
Xena, mais c'est bien, c'est Xena, bien essayé. Ouh,
mais c'est bien.
Alors, je précise que je regarde très peu de séries télé, je suis pas très bon non plus. Un demi-point. Ouais. OK, on continue. Je peux vous en sortir plein.
Allez.
Ma sorcière bien-aimée.
Ah oui, bien, eh ben alors bravo. Du coup, merci pour cette introduction du feu de Dieu parce que il y a des séries qui font partie des séries qu'on aime et qui ont participé à changer l'image de la femme et Ma sorcière bien-aimée en fait partie. Parce que oui, bien sûr, c'est un sitcom populaire des années 50 et 60. Certes, Samantha, c'est un stéréotype même, c'est une ménagère, elle est femme au foyer, elle a les cheveux blonds, laquée, long, elle est en mini-jupe, elle est pleine de bonnes manières.
Le tablier.
Elle est dans un couple bourgeois, tout ça, dans une zone pavillonnaire avec Jean-Pierre, sauf que. Eh bien, Samantha, elle va s'amuser à transformer son mari en dinde ou en chimpanzé. C'est une sorcière qui se transporte dans les lieux qu'elle souhaite, où elle veut, quand elle veut, en claquant des doigts. Et qu'elle essaie d'exaucer ses vœux les plus chers. Elle tient tête un petit peu à son mari dans 300 épisodes. Alors certes, derrière le portrait de la femme au foyer, eh ben, on commence à pressentir un peu l'émancipation. Good point, Ludo.
Merci.
Donc, c'est pas mal. Après, il y a aussi l'image de la belle-mère quand même dans Ma sorcière bien-aimée qui reste assez stéréotypée.
Alors, on n'est pas au top.
Aussi. Mais il y avait il y a quelque chose sur cette forme de liberté qu'on ne voyait pas forcément partout avant.
Mm. Ok. Une autre qui te vient ?
Maggie.
Ah, alors là, par contre, moi, pas.
Maggie tout en rose.
Ah, oui.
Pas mal. Je n'ai pas
regardé
France
2, non plus.
C'était très vieux. Oh là là, parce que je me suis arrêtée. Oui, c'est quand j'étais petit, je regardais des séries télé. Allez, Buffy contre les vampires.
Ah, yes. Eh bien, merci. De nouveau,
là,
quelle
ça vaut
transition.
Deux points.
Ah ben là, ça vaut même plus que ça.
Je suis trop fort, en fait.
Ouais. Ouais, grave. Concrètement, c'est dans les années 90 que tout bascule avec une série qui est culte hein, pour toute une génération. On va pas vous faire le générique.
Si. Non.
Non.
On dirait Fort Boyard.
C'est clair. Jouer Fort Boyard, là.
Donc, Buffy contre les vampires, en gros, c'est quoi ? Pour ceux qui seraient passés à côté de ça, les millennials, si vous nous écoutez. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme forte, indépendante, qui tabasse des vampires la nuit en mode tranquillou. Après, c'est quand même à discuter parce que Buffy, elle est blonde, elle est ingénue.
Elle est dans les mêmes critères physiques de beauté qu'on retrouve tout le temps.
C'est la première du lycée, c'est elle qui remporte le bal de fin d'année, tout ça, etc. etc.
Vraiment la culture américaine de la célébrité, de la pom-pom ou des choses comme ça. Donc là, on est dedans. Mais c'est comme tout à l'heure avec Samantha, il y a quand même un mais. Et là, on arrive sur le type d'héroïne qu'on appelle après les héroïnes badass.
C'est ça. Donc elle reprend un stéréotype bien connu des teens movie, mais quand même... elle a une force surhumaine. Elle reprend un peu des codes comme Xena, la princesse guerrière.
Pas Xera.
Et donc voilà, Buffy, c'est quand même... elle va se battre contre les vampires. Elle a son meilleur pote, c'est un garçon bibliothécaire. Son premier petit ami, il se transforme en monstre après sa première relation sexuelle. Elle aide toutes ses copines pour se sortir de leurs histoires pourries.
Donc il y a une sororité qui est déjà très, très marquée.
Qui est quand même super importante. Et donc du coup, c'est elle, malgré son côté blond et tout ça, c'est quand même elle qui fracasse la tête à tout le monde. Donc Buffy, c'est vraiment le début de quelque chose, quoi.
Et c'est un deuxième début dans Buffy avec sa meilleure copine Willow, qui s'est avérée être un personnage lesbien
l'une des premières
lesbiennes. On ne trouvait pas ça si facilement non plus comme modèle.
Et oui.
Donc, oui, en fait, après, ce qu'il faut quand même pas... On a de plus en plus de nouveaux modèles, mais quand même, les femmes dans les séries, ça reste quand même la minorité, mais elles peuvent avoir un peu de tout. Des pouvoirs extraordinaires, elles se battent contre les hommes, elles montent des révolutions. C'est des groupes de mères qui s'unissent, elles peuvent être juges, flics, médecins, enfin voilà. Mais même les rôles badass, c'est quand même pas apparu tout de suite. Et il y a plein de gens qui en ont parlé. Petite citation, du coup, de Hélène Breda, qui a écrit un livre là-dessus, qui est thésarde, du coup, en sciences de l'information et de la com, qui va parler de figures féministes des années 70, comme de Mary Tyler Moore Show, ou dans les années 80, avec des duos de policières, tout ça. Mais ça souffre encore trop, l'industrie de la télévision, du male gaze. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à réécouter notre minute du CIDF sur le cinéma, où on en parle. Voilà. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'autrices, de productrices qui parviennent à faire entendre leur voix, qui construisent des séries qu'elles produisent et écrivent elles-mêmes. Elles sont de plus en plus à apporter des récits authentiques, à montrer les femmes dans toute leur pluralité. Et donc, depuis 2010, ça s'est quand même sacrément accéléré. Et il y a de nombreuses séries showrunnées par des femmes. Et on va en citer quelques exemples. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la série I May Destroy You. Donc, c'est une série britannique. Pour l'instant, il n'y a que 12 épisodes, mais qui va parler de la question du consentement. C'est en partie autobiographique. C'est assez poignant. Voilà. Si ça, jamais ça vous intéresse d'aller faire un saut. Je ne sais pas si vous avez vu aussi... Alors, en anglais, excusez-moi pour mon accent. Made Hard Work, Low Pay and the Mother's Will to Survive. Voilà, donc c'est une mini-série qui va parler de la place d'une mère au foyer de 25 ans et de l'emprise que son compagnon a sur elle. On pourrait aussi vous parler de Fleabag, qui est une série britannique de 12 épisodes sur une femme trentenaire d'aujourd'hui. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des exemples de choses. Alors, Ludo, apparemment non, parce que tu n'es pas trop en série.
Moi, j'en ai, mais plus vieille, hein, des séries. Hein.
Plus vieille, ouais. Alors, en fait, moi, je voulais revenir aussi sur ce qui existait avant. Enfin, voilà, on peut parler de male gaze aussi. Mais par exemple, il y a eu quand même quelques séries, et c'était déjà assez intéressant, sur des binômes hommes-femmes. Moi, je pense notamment à la cultissime Chapeau melon et bottes de cuir, mais où on retrouve des héroïnes qui sont... soit badass, courageuse et tout ce qu'on veut. Il y a même Tara King qui avait les cheveux courts, ce qui était déjà assez, assez incroyable. Mais voilà, qui reste toujours assez... Il y a quand même encore des choses sur le côté très féminin de ces personnages.
Hélène et les garçons.
X-Files aussi, qui reposait vachement sur ce binôme. Mais ça repose sur ce binôme aussi autour d'une espèce de romance non aboutie, etc., etc. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les personnages féminins... soit étaient particulièrement badass, soit étaient assez inexistants dans certains cas, et que ce qui avait mis plus de temps à arriver encore que la femme badass, c'était la femme normale. Juste une série sur diversité de femmes.
D'accord, oui. Voilà. C'est vrai que ça, ça a mis du temps.
Tu vois, c'est-à-dire que pour que la femme vaille le coup de faire une série dessus, presque, il fallait alors qu'elle ait des super pouvoirs comme dans Buffy, ou qu'elle soit incroyable.
Comme dans Julie Lescaut.
Voilà, Julie Lescaut, je veux dire, super héroïne du quotidien. Mimi Mathy, qui est un ange gardien.
Mimi Mathy,
elle a des
vrai.
Pouvoirs. Mais il y en a eu. Et puis il y a eu aussi Ally McBeal et tout. Donc quand même, il y a eu des personnages féminins. Mais c'est intéressant aussi de voir que ça évolue. Je voulais parler d'une série qui avait révolutionné aussi en termes justement d'orientation sexuelle aussi. Il y a eu quand même l'avènement de The L Word, une série entièrement consacrée
à des femmes
lesbiennes, The L Word, donc le L de lesbienne, qui avait fait un peu un carton quand c'est sorti. Donc il y a des choses, mais c'est comme ce qu'on vous dit toujours, c'est de se questionner sur qu'est-ce que ça transporte comme message, comme image. Est-ce que chacun et chacune ont toute leur place? Est-ce qu'on attribue toujours un peu le même rôle ou pas aux femmes, etc., etc. Là, il y a une nouvelle série. Alors, j'avoue, aucune de nous ne l'a regardée, mais on commence à beaucoup nous en parler, qui s'appelle Les Filles du Feu. Sur la chasse aux sorcières. Et c'est vrai que quand on est un peu dans le monde de l'égalité homme-femme et du féminisme et tout ça, on ne peut pas passer à côté de l'image de la sorcière qui représente en fait les femmes sachantes de l'époque, les femmes qui savaient, les femmes qui étaient instruites et que du coup, elles faisaient peur, elles menaçaient. Et du coup, le mythe de la sorcière et la chasse aux sorcières. Donc, a priori, notre petit doigt nous dit que les filles du feu, c'est très bien. Donc, il y a effectivement des choses. Il y a Sex Education qui est dans un tout autre genre, une série sur les ados, mais qui par contre en termes d'ouverture d'esprit et de bienveillance sur les activités sexuelles est super, avec une sexologue mais qui du coup qui est jouée par notre ancienne Scully, qui est super.
Ah oui,
ouais, ouais, qui joue une psychologue du sexe avec beaucoup de fraîcheur et d'humour, avec des jeunes vraiment qui parlent de plein de façons d'aimer, de personnes qu'on peut aimer, de fétichisme ou pas, mais qui en fait viennent banaliser les pratiques. Et c'est important de lever les tabous en fait sur les pratiques sexuelles, parce que je trouve qu'une série comme ça qui en parle si simplement, ça vient contrebalancer les images hardcore qu'on peut avoir dans le porno, de dire faut que ce soit de l'extrême, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça, ou faut que ce soit sale, ou etc. Là, ça vient mettre des mots et des images très, très saines, très humaines, et puis de se rendre compte que, ah ouais, je suis peut-être pas le seul ou la seule à penser comme ça, à aimer ça, à vouloir faire ça. Donc, sexe éducation, je recommande, vraiment.
Moi, à l'ancienne, hein, sur l'éducation sexuelle, c'était, ma référence, c'était Sex and the City, avec tous les torts et les travers qu'il pouvait y avoir dans cette série. Mais quand même, qui commençait déjà à prôner une certaine forme d'ouverture, de liberté sexuelle pour les femmes, malgré tous les torts et les travers qu'on peut reprocher à cette série. Voilà.
Et puis, une série qui a inspiré des vocations, et on le sait, hein, c'est quand même Dr. Quinn, femme médecin.
Ah, c'est vrai.
Qui paraît, en fait, comme ça, assez anodine par rapport à ce qu'elle montrait.
Et un peu tarte.
Juste et qui pourrait paraître un peu tarte, mais c'était quand même... Il bousculait plein de stéréotypes, hein, parce qu'en plus, il y avait quand même un blanc qui vivait parmi les Indiens, il y avait cette femme qui était médecin, enfin, il y avait plein de trucs, on prenait le contre-pied, et puis c'était quand même l'époque où il y avait la petite maison dans la prairie, donc en termes d'image, relation homme-femme, tout ça, c'était quand même pas mal d'avoir Dr. Quinn, femme médecin.
Oui.
Bon, alors, petite liste de petites choses que vous pouvez aller voir si vous avez envie d'aller regarder un peu d'autres types de séries. On ne saurait trop que vous recommander Orange is the New Black. Sur des femmes en milieu carcéral, c'est hyper bien fait, et c'est... le casting il est incroyable, il est brillant, on a la première actrice transgenre dans une série, enfin, c'est juste incroyable, allez faire un tour, allez voir Fleabag, c'est drôle, allez jeter un coup d'œil à Girls, à Insecure par Issa Rae, qui parle d'une femme trentenaire afro-américaine, de Self-Made. C'est l'histoire, pareil, d'une nana qui a travaillé dans les cosmétiques, mais qui est une vraie self-made, de The Chair, avec Ji Yoon Kim. Bref, il y en a plein. Pandore, Borgen, enfin, allez voir des séries.
Et si vous avez besoin de vous conseiller, pour ceux qui n'ont pas peur de déprimer, La Servante Écarlate, qui est dans le fait de dénoncer, justement, par une dystopie, la condition des femmes.
Oh, et peut-être une que j'ai regardée il n'y a pas longtemps et que j'ai adorée. Alors, pardonnez-moi encore mon accent anglais. The Mayor of Easton, avec Kate Winslet, qui est juste, mais
Kate Winslet, on t'aime.
Incroyable.
Voilà. Et tous les épisodes de Julie Lescaut, on le rappelle.
Merci, Ludo.
N'oublions pas, Mimi Mathy. Allez, on vous aime, les filles.
À bientôt.
À bientôt.